Double face, Valérie Ogier.
Vous rêvez de passer une nuit en forêt pour découvrir la vie sauvage, vous allez pouvoir le faire en restant au chaud, et ce grâce au documentaire Le Chant des Forêts, signé par Vincent Munier. Bonjour Vincent Munier.
Bonjour.
C'est vrai que dès qu'on regarde quelques images de votre film, on se dit, il a dû faire froid quand même dans cette forêt des Vosges.
Non, c'est bien dit, c'est franchement ça. C'est une invitation à passer un affût d'une heure et demie à nos côtés. Et dans des conditions qui sont un peu plus confortables, je l'avoue. Mais essayez de vous imposer un peu quand même ce temps un peu long, cette attente, cette patience, avant de voir la bête.
La bête, on va en parler justement. On va parler de votre film tout d'abord, cette plongée au cœur des forêts vosgiennes. On plonge aussi au cœur de la transmission, parce qu'il y a les trois générations, votre père, vous, votre fils, on va en parler. Et puis on va parler de vous. Parce que ça commence par vous, vous êtes photographe, une passion qui est votre métier depuis plus de 20 ans, puisqu'en 2000, vous avez obtenu à 24 ans, pour la première fois et trois années consécutives, le prix du meilleur jeune photographe de nature. Ça, c'était une récompense attribuée par la BBC. Ce genre de récompense, c'est déjà la reconnaissance utile pour la suite.
C'était un véritable élan, c'était vraiment un tremplin. J'étais tout jeune, assez timide dans mes forêts vosgiennes. Et j'ai un souvenir mémorable quand on a reçu le résultat. À l'époque, c'était des fax, je me souviens.
Ah oui, 2000.
Et en fait, ça n'arrêtait pas de dérouler sur le fax familial. Et c'était en anglais, mon anglais était plutôt mauvais. Mais je comprenais, quoi, winner et tout. Et c'était un rêve de pouvoir gagner à cette compétition qui reste un peu le Graal. À l'époque, c'était ça, c'était la plus grande. Grand concours de photographie animalière dans le monde, qui est organisé par la BBC et puis le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Et voilà, donc trois années consécutives, c'était complètement fou. Et c'est ce qui m'a décidé à tenter de vivre de cette passion.
Et là, vous avez 24 ans.
Et là, j'avais à peu près, oui, c'est ça, 24 ans. Et je faisais des petits boulots pour me payer les films, pour me payer des matériels photo.
C'était quoi vos petits boulots ?
J'ai fait de la maçonnerie, j'ai planté des fleurs chez un horticulteur. Après, j'ai fait de la presse quotidienne régionale. J'étais pigiste pour faire des photos de football, de faits divers, rubrique de chiens écrasés, comme on dit. J'essayais d'avoir des petits contrats. Et quand j'avais suffisamment d'argent, j'allais... J'avais une voiture, un petit break, j'arrivais à dormir dedans et je partais dans les pays de l'Est, aller chercher des zones encore plus sauvages. Donc j'ai fait les Carpates, je suis allé en Slovénie, essayer de rencontrer des ours, mes premiers ours, mes premiers loups, tout en lisant les récits de votre fameux artiste, philosophe, sculpteur Robert Reynard. Il m'a vraiment, lui, énormément inspiré pour aller dans ces pays-là.
Et alors, vous voyagez, vous vous formez aussi, vous, le photographe, et puis vous partagez en images cette passion. Et puis, il y a notamment la panthère, des neiges, un autre animal qui apparaît dans votre CV, ce film documentaire de votre voyage au Tibet avec l'écrivain Sylvain Tesson, avec à la clé 600 000 entrées. Déjà, le chiffre impressionne. Et le César du meilleur documentaire, ça c'est en 2022, il est co-réalisé avec Marie Amiguet. Là aussi, c'est une reconnaissance et la porte ouverte vers d'autres opportunités.
Oui, complètement, mais tout s'est fait de manière un petit peu progressive, bien avant ça, parce que La Panthère des Neiges, c'est assez récent, c'était il y a 3 ans. Mais avant, il y a eu ces voyages sur Hokkaido, il y a eu au Japon, j'ai réussi à avoir une bourse. Ensuite, le Kamchatka, ça a été une grande gifle de grands espaces sauvages, où c'était un rêve de pouvoir aller là, c'est vraiment l'extrême est de la Sibérie. Et c'est le paradis pour les ours. Donc il y a eu tous ces voyages un peu étapes qui m'ont vraiment formé, qui se mélangent entre l'aventure, la quête naturaliste et puis une quête aussi un peu esthétique et artistique. Ça a toujours été mon credo de comment faire pour mettre en avant et magnifier ces bêtes qui me hantent et dont je rêve et dont j'ai un respect fou, quoi.
Qui vous hante carrément.
Ah, qui me hante, hein, parce que j'ai beaucoup lu, et quand tu lis des récits d'aventuriers, des récits de biologistes, ça reste. Hein, moi, je trouve que c'est assez génial quand même. Hein. Un livre peut changer le destin d'une vie, hein, franchement.
Pour vous, ça a été lequel ?
Et pour moi, c'était un peu ça. Ben, déjà, Robert Hénard, les mammifères, quand je suis allé en Slovénie voir mes premiers ours. Georges Schaller. Vous parlez de la Panthère des Neiges, c'était un biologiste américain qui est toujours de ce monde et qui a. Il y a eu un récit magnifique de Peter Mathiesen, le Léopard des Neiges, qui raconte leurs 3 mois d'expédition dans la vallée du Chitral en Asie centrale, au Pakistan, où ils ont finalement pas vu la panthère, contrairement à Sylvain et moi, mais qui reste un récit hyper puissant, quoi. Donc je me nourris un peu de tout ça et pour construire après mes propres aventures.
Et on va en parler de cette passion que l'on sent dans votre voix, Vincent Munier, de cet amour de la nature à tous les sens du terme dans quelques instants. Si on remonte le fil du temps, Vincent Munier, là on a parlé de vos voyages, on a parlé de ce qui vous hante, à savoir ces animaux. Vous avez grandi dans les Vosges, entre un paysage industriel et la forêt. Ça, c'est le décor qui est campé, c'est un univers plutôt contrasté, on va dire. De quelle manière ce contraste a pu influencer votre perception de la nature, selon vous ?
Ah, pas évident, ça, mais je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vrai que tout le monde imagine que j'étais au fin fond de la forêt, que j'ai grandi là, mais pas tant, en fait. C'est vrai que c'était en lisière d'une ville un peu industrielle, avec des friches, une voie ferrée qui passait tout près de la maison, qui faisait trembler les vitres de la maison. Mais cependant, à quelques coups de pédale, hein, je prenais mon vélo, hop, j'avais un grand massif forestier. À proximité 1000 hectares, et c'est franchement là où j'ai énormément appris. Et puis des parents qui nous ont enlevé de ce confort de la maison pour nous emmener dehors, quoi. Ça, c'était quand même une grande richesse. Et en montagne, faire de l'escalade, faire des descentes de rivière en canoë, c'était une vie dehors, vraiment, aller ramasser les champignons, faire du bois, enfin vraiment, ça, c'était d'une richesse assez folle. Et je pense que c'est ça qui m'a... Ouais, qui m'a ouvert les yeux vers ça. C'est un regard un peu singulier grâce à cette éducation, de le poser, ce regard sur tout ce qui me remplit, et c'est-à-dire toute cette beauté qu'on a tendance un peu à zapper, à oublier, quoi.
Alors là, il entre dans le décor votre père, Michel, naturaliste. C'est lui qui vous a initié, sensibilisé à la nature. Vous avez le premier souvenir marquant de cette transmission avec qui, où, comment, à quel âge ?
Ah, ils sont nombreux, mais ces premières nuits en forêt, sous un sapin avec lui, c'était marquant. J'avais peut-être 7-8 ans, je ne sais pas exactement. Et dans mon petit duvet, là, à passer 12 heures sans bouger sous ce sapin, et puis d'avoir aperçu mon premier grand tétras, c'était quelque chose qui était hyper puissant. Après, il m'a laissé seul aussi, parce que il m'a fait comprendre que c'est des émotions qu'il faut quand même vivre un peu seul. À 12 ans, il m'a laissé sous un filet de camouflage. Lui, il était à un kilomètre ou deux plus loin pendant 3-4 heures. Et j'attendais avec un vieux téléobjectif. Et c'est là où il s'est passé quand même quelque chose de hyper puissant, hyper fort. C'est la rencontre avec ma première bête sauvage toute proche et ma première image, quoi. J'entendais des pas derrière moi. Et donc, il y avait un mélange de fascination et de peur. Et ces fameux pas me sont arrivés devant moi. C'était une famille de chevreuils, en l'occurrence, et j'en ai eu un tout près. Je voyais, j'ai tremblé, j'ai fait ma première image. Et j'étais de vivre ça en solo, franchement, ça, il y a une émotion hyper, hyper forte. Et donc, j'ai réussi à figer ce mirage, l'impression que c'était presque un rêve, et de le partager après. Et j'ai trouvé que c'était cette magie de la photographie, quoi. Comment on peut partager des moments qui nous paraissent complètement fous, irréels. Et ça a été ça a basculé. Ouais, j'ai changé le destin de ma vie après ça.
Donc c'est là, à 12 ans, cette envie de photographie qui apparaît, le pouvoir de la photo.
C'est le pouvoir de la photo, c'est cette espèce de... Ouais, c'est tout un mélange de choses, c'est-à-dire connaissance naturaliste, de micro-aventures, de construire des petites cabanes, des affûts, de faire des sentiers où je balaye les feuilles pour pas que mes pas fassent de bruit, pour approcher de nuit en mettant des repères avec des branches pour revenir sur ma place d'affût. Et en fait, c'est hyper grisant, c'est excellent. Et puis, il y a beaucoup d'échecs, évidemment.
Parce qu'on va beaucoup en repérage. Ah bon ?
Beaucoup en repérage, énormément. Je passe beaucoup de temps les yeux dans les jumelles, on observe. toutes les conditions sont bonnes, le vent est bon, il faut toujours avoir le vent de face pour les mammifères. On se dit, voilà, là, c'est le moment. On tente.
Et alors, à quel moment cette passion donc, que vous vivez dès le début de l'adolescence, en fait, si on doit donner un âge, vous vous dites, je pourrais peut-être en faire une vocation professionnelle, Vincent Meunier?
C'était pas évident, hein. Franchement. Mon père, même à un moment, il culpabilisait à l'idée de m'avoir transmis cette passion parce que je faisais rien à l'école. Je passais mon temps dehors. Et donc, j'ai quand même pas été. C'était pas très glorieux, hein, mes études. J'avais pas de bons résultats. J'ai loupé le bac plusieurs fois. Mais comme on l'a dit au début, ce concours à Londres m'a aidé. Quelques publications. Et puis. Ces voyages du Japon, petit à petit, j'ai pu quand même, aiguiser un peu mon regard, essayer d'amener, pas un style photographique, mais le fait que je me nourrisse de plein de choses différentes, de ces récits d'aventuriers, de ces peintures japonaises qui m'émeut, des gravures de Hénard. J'ai peut-être amené un petit style photographique qui a plu et qui m'a permis... assez vite d'être publié et puis d'être sollicité par des galeries et puis de devenir indépendant et presque artisan de l'image. Moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire, assez tôt, j'ai eu envie aussi de faire mes livres, donc d'être éditeur et de suivre tout le process de la construction du voyage ou de l'aventure jusqu'à la publication d'un livre. Parce que les livres, je trouve ça tellement important. Moi, ça m'a vraiment... fait voyager, ça a été aussi des élans. Et l'objet livre est tellement, je trouve, ça permet de grand partage et des évasions. Donc le choix du papier, le choix des images. Je ne voulais pas être dirigé par des directeurs artistiques, comme souvent, et je voulais que ça soit assez personnel par rapport à ce que je vivais sur le terrain, quoi. Donc j'ai créé ma maison d'édition et de production maintenant pour les films.
Et donc, cette passion, vous l'avez transformée non seulement en métier, mais peut-être aussi en mission, en acte citoyen? Parce que ce que vous décrivez dans votre maison d'édition, maintenant de production, c'est la liberté totale pour pouvoir faire passer le message que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez.
Exactement. C'est une méthode un peu, peut-être un peu douce, on va dire, mais il y a quand même un petit militantisme derrière ça. C'est-à-dire que j'utilise... cette beauté du sauvage, cette poésie, tout ce qui m'anime très fort avec ces rencontres et ces moments de grâce avec les bêtes, pour essayer de sensibiliser. Je crois que c'est un moyen comme un autre. Encore plus pour le film, là, Le Chant des Forêts, il y avait vraiment une volonté très forte d'être le plus fidèle possible, le plus sincère possible par rapport à ces instants que je vis en solitaire, souvent. Et qui me transcende, qui m'anime, qui me donne la chair de poule, quoi. Mais comment, essayer de retrouver ça et de le partager aux gens. Et parce que j'y crois à ça. Les mots, j'ai l'impression qu'on a un peu tout dit dans les discours, des discours assez alarmants. Et je crois que la beauté de retrouver des choses qui résonnent en chacun de nous, quoi, réveiller un petit peu dans le profond de chacun, un peu ce qui est endormi, cet émerveillement qui s'est un petit peu endormi. Quand on est gamin, on a cette capacité à s'émerveiller devant tout ça, devant les autres, tout ce qui est pas humain en quelque sorte. Mais très vite, quand on devient grand, on n'a plus ça. Et comment on fait pour titiller un peu ça, pour pallier à cette crise de la sensibilité, à la crise de le fait qu'on nous donne plus le temps, en fait, de savourer cette beauté, de s'en nourrir, quoi.
Alors, vous êtes un photographe de l'émerveillement, Vincent Meunier. Vous êtes un réalisateur de l'émerveillement aussi, puisqu'on va parler de ce film qui sort dans quelques jours, le 17 décembre. Vous retournez au cœur des Vosges. Vous nous avez parlé du Japon, des Carpates. Là, vous êtes pratiquement à domicile au cœur des Vosges pour Le Chant des Forêts. C'est votre film documentaire, là où tout a commencé avec votre père. Et justement, Michel, le naturaliste, qui a passé sa vie aussi à l'affût dans ces bois, il est de la partie. Et puis apparaît la troisième génération, c'est Simon, votre fils. Toute cette famille a une fascination pour la vie sauvage à divers degrés. C'est aussi ce qui apparaît au fil des images. Alors on est au cœur, on est au premier plan de la forêt des Vosges. C'est assez indescriptible, parce que l'émerveillement est indescriptible. Mais vous nous emmenez pendant une heure et demie dans la vraie vie sauvage, c'est ça en résumé?
Oui, c'était ça. C'était vraiment comment faire pour vous inviter le plus grand nombre à nos côtés, de manière très intime, dans nos affûts, sous le sapin. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment est-ce qu'aussi on procède? Moi, j'ai quand même conscience du privilège que j'ai eu d'avoir eu la forêt pas très loin, d'avoir eu ce père qui m'a tellement ouvert les yeux là-dessus. Et donc, c'est quand même un peu pas une dette, mais je me dis, voilà, il faut quand même qu'on partage ça. Et de manière intime, vous avez raison, c'est-à-dire en prenant le temps d'être fidèle à ces instants-là, quoi. C'était pas si simple, mais ça, c'est la magie du cinéma, quoi. Là, on est un peu... On est presque dans un affût tous ensemble, dans le noir. Hein, et là, à nous de trouver, avec les ingrédients que nous offre le cinéma, qui est le son, la musique, les images, comment est-ce qu'on arrive à trouver le dosage subtil pour faire vibrer, quoi, qu'il se passe des choses, et comme vous l'avez si bien dit, sans mots. Il y a des choses qui sont indescriptibles. Quand on est face à un paysage où il y a des jeux de lumière hallucinants, où vous avez les arbres qui fument, où il y a des volutes, il y a des choses... En fait, on est saisi. C'est Giono, je crois, qui en parlait très bien, en disant, mais il n'y a même pas de mots, quoi. À la limite, la fulgurance de la poésie pourrait nous aider à décrire ça. Et moi, en l'occurrence, là, c'est l'image, quoi. Juste ça, l'image, le son, on se tait. Des fois, on a même envie de fermer les yeux, juste pour qu'on se nourrisse de ça, quoi. C'est quelque chose de très vibratoire, en quelque sorte. Je vous assure que dans la forêt, il y a des choses qui sont... il y a des choses invisibles, ils sont là. Hein, c'est comme un peu des dieux partout, un peu invisibles, qui nous regardent. Et il se passe des énergies folles, vraiment. Des choses qu'on n'arrive pas à décrire, des choses qu'on ne ressent pas tout de suite, mais qui nous nourrissent, j'en suis persuadé. Comme le dit mon père à un moment, il dit à Simon, regarde les arbres aussi, écoute les oiseaux. Et finalement, on le sait maintenant que le chant des oiseaux favorise la croissance des arbres. C'est quand même dingue. Et en fait, ça, il ne faut pas négliger ça, même sur nous, sur nos petits êtres. Il y a des énergies, des vibrations qui nous arrivent quand on est dans ces forêts vivantes, ces forêts qui chantent, comme dit mon père. Et ça, ce n'était pas si simple de le retranscrire au cinéma, mais c'est une proposition, une tentative, là, en tout cas. Une heure et demie d'affût avec nous.
Une heure et demie pendant laquelle, bah justement, on attend avec vous, on est dans le chalet avec vous, on a l'impression d'avoir un peu froid avec vous, parce que quand même, vous remontez votre col, aussi bien votre père que vous-même. Votre fils, Simon, il est là, alors c'est aussi la passation du grand-père, du père que vous êtes. En même temps, il est curieux, et il n'est pas tout à fait enthousiaste encore, il n'est pas enveloppé de cette magie qu'on peut sentir dans votre propos. Il est encore en observation.
Mais bien sûr, et puis on n'a pas voulu mentir là-dedans. C'est vraiment, il n'y a pas eu de scénario, c'est-à-dire qu'on a filmé et puis après on prend le meilleur, mais c'est d'une manière très naturelle. Et Simon, on le ressent que des fois il en a marre. Il dit bah non, mais petite chouette.
Non, moi je vais me coucher là.
Petite chouette, j'ai pas envie de me réveiller, quoi. Ouais. On le voit qu'il regarde son téléphone, on regarde qu'il lit ses BD de Miyazaki. C'est une réalité, quoi. Ça reste un pré-ado, maintenant ado, qui est aussi sur sa tablette et sur son téléphone. C'est sûr, mais n'empêche que il a quand même, je crois que de l'avoir emmené là, d'avoir écouté son grand-père lui raconter ses histoires, d'en avoir vécu ensemble, parce qu'on l'emmène aussi vivre ça en Norvège en l'occurrence pour rencontrer cet oiseau mystère, et ça nourrit son empathie, ce qu'on manque cruellement, son empathie envers tout ce qui nous entoure. Je trouve, c'est des âges où c'est important parce qu'il y a encore ça, cette capacité à s'émerveiller. Et là, quand il voit un piquet-pêche par la fenêtre ou un petit écureuil et je vois son enthousiasme, ça me fait plaisir. Même s'il voit, il va prendre un autre chemin probablement parce qu'il est attiré par la cuisine, le théâtre, la scénographie. Mais il a quand même ses valeurs, je crois, qui sont assez importantes d'être attentif à ce qui nous entoure. Et de regarder, d'être attentif, d'être curieux de ce monde et puis curieux de l'autre, en fait. Pas obligatoirement humain, mais les non-humains aussi.
Et on voit son émerveillement, là, pour le coup, quand il fait sa photo.
Ben oui, et à la fin, on voit un peu l'évolution du personnage. Ouais. On est quand même sur cette cabane, comme vous avez dit, qui squelette un petit peu ce film, qui charpente le film. Il écoute ses histoires. Mon père et moi, on lui raconte nos moments très forts avec le brame du cerf, la rencontre avec le lynx, tous ces paysages, ces oiseaux, ces murmurations de Pinson du Nord aussi. Et après, on l'emmène, il va vivre ça, et c'est même lui à la fin qui nous montre. Donc on voit une évolution. Il montre les petites maisons jupées qui sortent du trou et qui filment aussi les chouettes. Donc, jusqu'à la fin où. On peut le dire, hein, mais c'est vrai qu'il y a comme la suggestion aussi de la disparition du grand-père. On évoque sa mort, en l'occurrence, qui est, mon père le dit très bien, quoi. On est, on vit, on meurt, tout ça pour une espèce de grand mouvement. Je crois qu'il apporte à Simon comme des clés assez lumineuses pour se préparer à cette disparition.
On évoque ce matin le chant des forêts. Alors, vous en avez entendu quelques extraits dans la voix de Vincent Munier. C'est vrai que c'est assez indescriptible comme le film, comme documentaire au cœur des forêts vosgiennes. Par contre, il y a une chose évidente, c'est qu'on ne s'attend pas à ce qu'on va voir au cœur de ces forêts. Pour vous, peut-être, puisque c'est ce que vous êtes allé chercher avec votre père et votre fils Simon. Mais cette forêt-là, elle est hors du temps. Aussi bien côté météo que temporel, parce qu'on ne saurait pas dater ce film-là, vous pourriez le ressortir dans quelques années, sauf déforestation, il n'aurait pas d'âge, il est véritablement intemporel. Vous, ça vous a pris combien de temps, combien d'affûts justement, combien de tournages pour arriver à ce résultat ?
Oh là, c'est dur de dire, parce qu'en fait c'est... On est quand même des fous furieux, mon père et moi. Mon père, pour la petite anecdote, il a passé plus de 1000 nuits sous un même sapin pour observer le grand tétras, cet oiseau-là, fin d'hiver, début de printemps. Moi, je suis je suis complètement possédé par ça, par cette quête de la rencontre avec la bête, de filmer et de magnifier tout ça. Donc là, on a été recherché ces 8 dernières années, tout ce que j'ai pu filmer autour de ma maison, dans mes forêts. Et aller chercher vraiment le meilleur, tous ces instants qui, moi, m'ont vraiment tellement apporté, qui m'ont tellement nourri, qui m'ont tellement fait vibrer. Et donc, c'était un gros travail de sélection sur 8 années. Et puis, une année avec Simon, mon père et moi, et 2 amis cadreurs pour la cabane et pour la Norvège. Et donc, ça, c'était sur... Une année, quoi, les week-ends pendant les vacances, quoi. Mais il y a 8 mois de montage dans le noir pour sélectionner toutes ces... Donc, même s'il y a eu une écriture pré-tournage, on pouvait pas savoir à quoi s'attendre. C'est toujours ça, quoi, dans l'animalier. Comme on a... Il y a rien qui pouvait être scénarisé avant. On n'a pas des animaux qui sont domestiqués ou imprégnés pour le cinéma. C'est que des animaux libres et sauvages. Donc, c'était en fonction de ce qu'on allait avoir. Le lynx, c'était pas sûr que je le montre à mon père. Le grand tétras, c'était pas sûr que Simon le voit. Donc il y a eu après une écriture post-tournage, au montage. Donc là, on a... Voilà. Donc c'est un travail qui a nécessité plusieurs années. Ouais.
Le chant des forêts, c'est votre témoignage. C'est aussi ce qui va servir comme base de données pour la suite. Vous allez en faire un comparatif au fur et à mesure que votre travail évolue.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un film assez personnel, intime, beaucoup plus que La Panthère, finalement, qui est une... Panthère, c'est une parenthèse d'une de mes aventures dans les grands espaces. Là, Le Chant des Forêts, c'est vraiment toute ma base, mes racines, tout ce que j'ai reçu et ce que j'ai transmis. Donc, c'est quand même beaucoup plus puissant pour moi. Et j'espère que ça va donner aux gens envie d'aller en forêt, de voir comment aussi on se comporte. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un enseignement que mon père m'a inculqué en disant on avance sur la pointe des pieds, quoi. On n'est pas chez nous. Là, tout est en ordre, en équilibre. Donc, on a une responsabilité. On a un impact quand on rentre dans ce milieu où tout est juste. Et nous, on est quand même l'espèce animale qui amène parfois un certain désordre, même pas parfois. On grignote sur tout l'univers des autres. Donc vigilance, quoi. On a besoin de vivre ça, de se nourrir de ces vibrations et de ces rencontres et de ces moments de grâce, mais tout en s'effaçant, tout en étant extrêmement respectueux de ceux qui habitent ce milieu.
Discret.
Discret, s'effacer, se taire, et il y a un monde qui s'illumine, vraiment.
C'est l'occasion de faire une parenthèse sur le son. On ne doute pas que vous ayez eu des preneurs de son extrêmement talentueux, mais ces variations entre le chant des oiseaux qui peut être assez aigu, assez fort, et le murmure humain, là, ça fait vraiment la balance que le monde animal est plus puissant que le monde humain.
Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je souffre de cette espèce d'égocentrisme de notre espèce, quoi. Ça, j'en souffre terriblement. On est quand même l'espèce animale la plus arrogante, donc... Donc là, oui, c'est une proposition de donner un peu la parole aux autres, à ceux de la forêt. Et alors, il n'y a pas eu tant d'ingénieurs son. C'est en fait, c'est une technique où on pose des micros et après, on les récupère quelques jours après pour des rochers. Mais il y a quelques amis naturalistes, audio-naturalistes qui m'ont aidé aussi. Mais ça, c'était précieux. Très peu de bruitage, vraiment quasiment pas, à part les bruits de casseroles en cabane ou de bruits de veste. Mais sinon, c'est vraiment des vrais sons. C'est vraiment le langage des bêtes, quoi.
Et pendant une heure et demie, vous êtes plongé au cœur de la forêt vosgienne. Ça s'appelle le Chant des forêts. Et c'est signé Vincent Munier. On arrive au terme de cette rencontre, Vincent Munier. Ça file, hein. Est-ce que le temps passe plus lentement en forêt?
Oui, c'est la chanson de fin de générique de Rosemary Stanley et Dom Lalena, là. Où est-ce que le temps part? Mais c'est... Je trouve que, franchement, quand on s'échappe des écrans, de notre confort, le temps, j'ai l'impression qu'il est plus dilué et on l'accepte mieux, ce temps qui défile.
Et peut-être même plus profitable.
Probablement.
Le dernier exercice de cette rencontre, c'est du tac au tac. Vous voyez l'idée ?
Mm-hmm.
Le premier talent d'un photographe naturaliste, selon vous, Vincent Munier, c'est la patience.
C'est la patience, vraiment. C'est la connaissance et la patience.
Comment vous choisissez les lieux de vos prises de vue en forêt ?
À l'instinct. Non, mais vraiment, aux sensations, je parlais de ces vibrations, c'est pas une blague. Hein. Y a des moments, il y a des endroits où il y a une énergie qui n'est pas la même que dans d'autres endroits, franchement. Donc c'est vraiment, l'instinct, c'est pas une blague.
Et quand vous voyez apparaître l'animal que vous avez guetté, quelle est votre première émotion ?
Ah, voilà, là, j'inspire. Non, c'est... C'est difficilement descriptible. Encore plus quand je l'attends depuis très longtemps et que c'est très dur et que j'ai subi pas mal d'échecs. Et non, mais pas une lévitation, mais un peu, en quelque sorte.
D'ailleurs, vous vous redressez là.
Oui, je me redresse.
Derrière le micro.
On inspire, c'est vraiment... Et on a une sensation de sentir vrai, vivant, quoi. Moi, plus je suis en contact avec ces bêtes et ces rencontres-là, je trouve qu'on ne triche pas dans la nature. Il y a quelque chose... C'est rare de se trouver... bien, enfin, je sais pas, mais on joue souvent des rôles dans notre société. Hein. On n'est pas vraiment nous. Hein. Et d'être vrai, sincère, et des moments de grande zénitude, je l'ai avec les bêtes et dans ces instants-là, vraiment.
Je me suis demandé s'il y avait le stress de la photo ou du film raté.
Non.
Parce que justement, non ?
Non.
Vous l'attendez
non,
plus si
mais
longtemps.
Le stress, non. Photo ratée, non, pas du tout. Le stress d'un film raté, ben non, mais une exigence, c'est pareil dans mon travail photographique, je suis quand même un éternel insatisfait. Tellement c'est beau et parfait et juste, sans excès dans la nature. Donc comment faire pour... c'est hyper prétentieux pour essayer de partager ça, quoi. Et je suis souvent assez déçu tellement je ne suis pas à la hauteur de ce que j'ai vu et de ce que méritent les bêtes. Et ce film, c'était ça. C'était quand même beaucoup en disant, là, c'est un galop d'essai, c'est une tentative, ce film. Mais on mérite mieux, quoi. C'est ça. J'aurais pu mettre encore beaucoup plus d'années à le faire, ce film. Tellement, là, c'est un essai, c'est une proposition, mais qui n'est pas aboutie. C'est franchement pas abouti. Ça peut être tellement plus beau encore.
C'est la répétition avant le chef-d'œuvre ? C'est ce que vous visez
comme
projet ? Moi, j'en
sais trop rien, je ne sais pas. C'est quand même assez éreintant, donc je ne sais pas si... Là, il me faut quelques temps quand même pour me reposer un peu. Mais oui... Il y a quand même une exigence qui est assez élevée et que je n'arrive pas à atteindre.
Quelle émotion principale vous cherchez à transmettre justement sur la nature avec ces images, Vincent Munier ?
Il y en a une, franchement, c'est, je le dis à la fin, quoi, c'est de revenir à une position beaucoup plus horizontale. J'en ai marre en fait de cette hégémonie de notre espèce sur toutes les autres. Donc c'est un peu ça. C'est s'il y avait une... un message, en l'occurrence, c'est qu'il n'y a pas d'hierarchie dans tout ça et qu'il faut qu'on arrive à rebattre ce jeu de cartes. Il n'y a pas de raison qu'on décide du sort des espèces. Il faut qu'on retrouve une plus jolie harmonie et qu'on habite ce monde différemment, sans penser qu'à nous.
C'est militant, littéralement.
C'est militant, oui, mais j'avoue, je crois que ça peut être des clés, même pour un meilleur vivre ensemble entre nous, je crois. On manque cruellement de tolérance, d'écoute, d'attention à l'autre. Je parlais d'empathie, je pense que c'est le mot. Empathie, si on a de l'empathie envers les autres êtres vivants et qu'on prend le temps, qu'on est curieux parce qu'ils habitent ce monde avec nous, on sera probablement meilleur entre nous aussi, je crois.
Alors, ça serait quoi le conseil que vous donneriez à un jeune photographe qui souhaite faire, comme vous, de sa passion, la nature, donc ?
Souvent, je dis, attention de ne pas se dire, ça va être mon métier, je vais faire que ça. Non, il faut nourrir, entretenir cette passion, ce feu, franchement, en étant dehors, souvent.
Il y a un animal ou un paysage forestier que vous rêvez de photographier ?
Oui, j'ai encore plein de rêves et je sais que je ne vais pas réussir à tous les assouvir et tant mieux. Parce qu'ils sont là, ils m'habitent et je n'ai pas envie d'être cet enfant gâté qui assouvit tous ses rêves de gosse. Pour moi, c'est que là, je me dis oui, la panthère de l'amour ou le tigre de Sibérie, peut-être que je ne les verrai jamais, mais ils sont là avec moi.
Merci pour cette rencontre, Vincent Munier. Le dernier exercice, c'est... Vous perdez peut-être la notion du temps en forêt. Là, on l'a pour vous. Les 30 dernières secondes sont à vous. Vous en faites ce que vous voulez.
Ah non, alors là, c'est tellement difficile. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir imiter énormément de chants d'oiseaux, de faire des lynx, d'avoir un langage des bêtes. Mais là, ça va être trop dur. Je suis trop timide. J'aurais envie de de m'évanouir.
Il reste encore 5 secondes à tenir.
Je suis en train de me liquéfier. Voilà, et je disparais.
Merci beaucoup pour cette rencontre, Vincent Munier. Je rappelle que votre actualité, c'est Le Chant des Forêts. Ça sort ce mercredi sur grand écran. Le Chant des Forêts, c'est un voyage bien au chaud dans la forêt des Vosges. Et grâce à vous, on découvre des images, des espèces, des arbres, des vues et même des temps côté météo qu'on n'imaginait pas en forêt. Merci beaucoup.
Merci à vous.